Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Pourquoi le destin décide-t-il pour certains d'une vie grise et pour d'autres d'une vie arc-en-ciel émaillée des rencontres les plus improbables et magiques? Jean-Jacques Debout, auteur-compositeur qui a animé vraiment les années glorieuses de la chanson française, fait partie de ceux-là. Ceux dont la vie est jalonnée de rencontres follement romanesques qui se muent en amitié car cet homme a le talent d'aimer. Dans l'heure qui suit, on va donc croiser Charles Trenet, Jacques Brel, Aznavour, Jacques Mesrine, Léo Ferré, Claude François, Johnny, Marlène Dietrich, Jean Gabin, Sylvie Vartan, Brassens, Jean Cocteau et même le duc de Windsor à qui Jean-Jacques Debout a sauvé la vie. Un coffret double CD intitulé « Il chante », au pluriel bien sûr, Jean-Jacques Debout, vient de sortir avec 44 de ses chansons immortalisées par Johnny, Yves Montand, Barbara, Demi Son Sauce, Marianne Faithfull, Dalida, Sylvie, Zizi Jeanmaire et bien d'autres. Voilà. La balade va être passionnante.
Europe 1.
Bonjour Jean-Jacques Debout.
Bonjour Isabelle.
Alors Jean-Jacques Debout, avant de démarrer cette conversation, j'aimerais quand même savoir où se trouve la carte sur laquelle le duc de Windsor, qui en 1936 avait renoncé au trône d'Angleterre, la carte sur laquelle il avait tracé ses lignes « Merci cher monsieur de m'avoir sauvé la vie, duc de Windsor ». Elle est où cette carte ?
Cette carte, elle est dans la boîte de la cravate qu'il m'avait offert, parce que quand il aimait bien les gens, quand il rencontrait quelqu'un, il avait l'habitude d'offrir sa cravate qu'il avait à Eton quand il était étudiant.
Ouais.
Et j'ai toujours la boîte et la carte est dedans.
Mais il s'était passé quoi au juste ? Comment avez-vous sauvé la vie ?
C'est tout simple, c'est parce que j'avais été programmé au casino de Biarritz et je devais chanter le soir vers 11h du soir au casino. Et puis je m'allonge au bord de la piscine et puis tout en m'allongeant, je vois un homme de l'autre côté, alors en face de moi, qui arrive avec un maillot boxer short un peu écossais. Et il ressemblait à mon père. J'avais l'impression de voir mon père. Et puis il descend dans le petit bain, puisque c'était le bain des enfants en face. Et puis je m'endors, je m'assoupis un peu. Puis à un moment, je me réveille comme ça. Et puis je ne vois plus. Je me dis, oh là là, il a dû lui arriver quelque chose, parce que je ne l'avais pas vu.
Ressortir ?
Ben non. Alors, j'ai marché le long de la piscine jusqu'au bout, et puis, tout d'un coup, j'aperçois un homme sur le ventre.
Tout au fond de la piscine ?
Tout au fond de l'eau. Heureusement, c'était le bain des enfants. Et puis, des bulles qui remontaient. Je me dis, ça y est, il commence à se noyer. Je descends tout de suite, je le prends dans mes bras, je le tire contre les escaliers qui remontaient à la surface. Et là, y a un garçon de café qui dit « oh là là, le duc de Windsor, le duc de Windsor !» Moi, je ne savais pas que c'était le duc de Windsor. Et alors là, ils ont vite appelé...
Les secours.
Les secours. Et puis,
donc, vous avez véritablement sauvé la vie du duc de Windsor, Jean-Jacques Debout.
Oui, ils m'ont dit « mais vous avez sauvé le duc de Windsor ». Et alors, quand je suis reparti le lendemain, quand j'ai demandé ma note à la caisse de l'hôtel...
Ils l'avaient réglé ?
Et ils m'ont dit « Non, vous nous devez rien et on a un cadeau pour vous. Par contre, on vous demande de ne pas trop en parler, mais bon, de toute façon, il y a tellement longtemps maintenant.
Hein » Il y a plus que prescription. Alors, oui. Jean-Jacques Debout, j'évoquais en vous présentant ces hasards heureux et ces rencontres qui font que la vie devient un destin. En ce qui vous concerne, vraiment, tout s'est mis en place de façon inespérée alors que vous n'aviez que 14 ans. Vous adoriez chanter alors que votre père voulait faire de vous un opticien. Vous suppliez votre grand-mère de vous inscrire au concours de chant des Poulebots de Montmartre. Vous gagnez ce concours en interprétant une chanson de Charles Trenet. Et dans le public, qui est là dans le public, mais totalement par hasard ?
Oui, il arrivait du Canada.
Charles Trenet ?
Oui, il était arrivé le matin même du Canada. Et c'était Charles Trenet, accompagné de son éditeur, La Marquise, que vous avez très bien connu.
Absolument. Et donc, Trenet voit que vous chantez formidablement, vous avez remporté le concours. Oui. Il vous invite, vous, votre grand-mère qui vous avait accompagné, à prendre avec lui et son éditrice, Madame Breton, donc qu'on appelait La Marquise.
Oui.
Et vous en profitez pour demander une place de coursier aux éditions de Madame Breton, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que là il me dit, la chanson était en avril à Paris. Et il me dit, vous la chantez beaucoup mieux que moi, vous devriez en faire le disque. Et puis, à un moment, Charles Trenet me dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui dis « Normalement, je devrais aller à l'école. » Et c'est une époque où je venais de rater mon certificat d'études à Saint-Mandé, puisque mes parents habitaient Saint-Mandé. Et je lui dis « Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler dans la chanson, comme coursier ou rendre service. » Et Madame Breton, à ce moment-là, dit « Ah bah écoutez, ça m'arrange parce que je cherche un coursier, mais je voudrais qu'il soit motorisé. » Et ma grand-mère, qui était très, très, très maligne, dit « Oh bah écoutez, il y a un vieux Solex à vendre chez le charbonnier à côté de chez moi, rue du Croissant. Je veux bien lui offrir, si ça peut l'aider pour trouver la place de coursier, je veux bien lui offrir. » Et c'est comme ça...
Qu'on vous a embauché.
Qu'on m'a embauché, que je suis rentré coursier aux éditions Raoul Breton.
Alors, il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1954, les chansons qui avaient du succès se vendaient sous forme de partitions avec toutes les indications pour les interpréter. Et donc, les éditions Raoul Breton étaient les plus connues pour vendre des partitions.
Ça s'appelait les petits formats bretons.
Voilà. Mais alors, vous êtes devenu coursier, mais pas que Jean-Jacques Debout. Parce que Gilbert Bécaud et Charles Aznavour, à cette époque-là, vous enseignez donc aux éditions Raoul Breton l'art de déchiffrer une partition pour qu'après vous puissiez expliquer aux artistes qui venaient les acheter, n'est-ce pas ?
Voilà.
C'est tout à fait étonnant.
Il y avait une pièce qui s'appelait Le Cours, qui était une grande pièce avec un piano, et je montrais les nouvelles chansons de Gilbert Bécaud, de Charles Trenet, et aussi de Charles Aznavour, qui lui avait du mal à réussir. Il n'était pas consacré à l'époque. C'est une époque où il n'avait même pas encore écrit Sur ma vie. Parce que c'est Sur, ma vie qu'il l'a consacré.
Le premier titre, absolument.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes.
Alors, on parle d'Aznavour. Aznavour qui a écrit pour vous « Gosse de Paris ».
Voilà, pour mes débuts.
Alors, vous aviez 15 ans et déjà une vie d'adulte, Jean-Jacques Debout. Vous étiez donc coursier, répétiteur auprès d'artistes qui venaient acheter des partitions. Vous suiviez les cours du petit conservatoire de Mireille.
Oui.
Le soir, régulièrement, vous dîniez avec Charles Trenet, avec Joseph Kessel, avec Jean Cocteau.
Oui.
Comment expliquez-vous que votre père, qui rêvait que son fils devienne opticien, comment expliquez-vous qu'il laissait son fils ado plonger dans cette vie d'artiste qu'il avait toujours épouvanté ? Parce qu'il ne voulait pas que vous deveniez un saltimbanque.
Non, alors il m'avait viré de l'appartement à Saint-Mandé. Et il m'avait dit, il y a une chambre de bonne, tu vas aller t'installer dedans, puisque tu veux faire du cabaret. Parce
qu'il faut n'aviez que 14 ans et demi ?
Oui, mais en fait, Patachou, qui était l'ancienne secrétaire de Raoul Breton pendant la guerre, était devenue chanteuse entre-temps et elle avait monté un cabaret à Montmartre, que vous connaissez, puisqu'on racontait que les Américains, elle leur coupait la cravate.
Absolument.
Et qu'elle accrochait derrière son bar. Et puis, Patachou passait aux éditions Breton l'après-midi et elle m'entendait chanter. Je lui montrais même des chansons. Et puis un jour, elle me dit « Mais ça ne vous intéresserait pas de passer dans mon cabaret ?» Je dis « Oui, mais j'ai peut-être pas assez de métier. » Mademoiselle Patachou. Alors, elle me dit, mais pas du tout. Vous passerez en levée de torchon. Venez demain répéter à 4 heures, je vais vous prêter mon accordéoniste. Son accordéoniste, c'était Jos Baselli, qui était un vrai génie, puisqu'il a accompagné Barbara
et Brel.
Il a accompagné les plus grands. Et à 4 heures, elle m'a fait répéter avec ce fameux Jos Baselli. Et elle m'a dit, bon, c'est très bien, vous commencez ce soir. Et voilà comment j'ai commencé grâce à Patachou.
Donc, enlevé de torchon à 20h.
Enlevé de torchon, voilà.
Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre, d'une rencontre au bord de l'eau. Ne reste que 4 initiales et 2 cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales.
Alors, Jean-Jacques Debout, à cette époque-là aussi, vous alliez au petit conservatoire de Mireille, qui se trouvait dans un immeuble du Palais Royal.
Oui.
Et le voisin du dessous de Mireille, c'était Jean Cocteau.
Oui.
Cocteau, star absolue de l'époque, qui contre toute attente vivait dans le dénuement. Parce que, en fait, il avait toujours froid.
Il avait froid.
À cause de l'opium dont il avait, n'est-ce pas, et abusé toute sa vie.
À moi, il m'avait dit qu'il avait réussi à s'en débarrasser.
Et il vivait dans une petite chambre, surchauffée, qui ressemblait à une espèce de grenier.
Ouf, lui, il appelait ça sa roulotte. Il disait, j'ai honte de vous faire rentrer dans ma roulotte, mon cher Jean-Jacques. Parce que, comme il y avait du verglas, c'est une année où il faisait très très froid, Cocteau avait peur de se casser le col du fémur. Alors il avait téléphoné à Mireille, qui était au-dessus. Il lui avait dit, est-ce qu'il n'y a pas un élève qui pourrait aller me chercher mes courses qui sont chez Corselet?
Et Mireille vous a désigné?
Et elle m'a désigné. Et je me suis dit en moi-même, enfin je vais pouvoir lui parler de La Belle et la Bête.
Ouais,
je vais pouvoir lui parler de tous ces grands films que j'ai toujours aimés. Mais moi, je m'attendais que chez lui, il y ait des...
Que ce soit fastueux.
Oui, qu'il y ait du personnel partout. Et puis pas du tout, c'était une petite pièce toute petite qui ressemblait à une roulotte de Romanichel, quoi. Et alors, il était un peu gêné, et quand je lui ai amené ses affaires, pour donc le fameux dîner, et puis me faire rentrer, il me dit, j'ai honte de vous faire rentrer, excusez-moi. Et il avait à la main un séchoir, et il était en train de sécher des bouts de papier qui étaient par terre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites à... Il me dit, mais... Vous savez, la poésie, c'est très beau, mais ça ne rapporte rien, ça ne rapporte pas. Alors là, je suis en train de sécher mon argent de poche. Et en fait, c'était des dessins qu'il était pressé de faire sécher, que des gens lui avaient commandé, leur portrait, le portrait de leur enfant.
Oui.
Et il les faisait sécher très vite pour avoir de l'argent de poche.
Incroyable.
Et je trouvais ça formidable.
Incroyable. Alors, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite mon invité cet après-midi. Jean-Jacques Debout.
Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation d'une heure entre Isabelle Morizet et son invité. Et aujourd'hui, c'est l'auteur-compositeur Jean-Jacques Debout.
Alors, cher Jean-Jacques Debout, au début de cette conversation, j'ai révélé que votre père, qui était l'opticien du général de Gaulle, eh bien, votre père était épouvanté à l'idée que son fils devienne saltimbanque. Il avait d'ailleurs tenu à ce que vous ayez l'éducation la plus rigide qui soit, puisque en 1948, vous n'aviez que 8 ans, votre père vous a envoyé en pension chez les prêtres oratoriens à Juilly. Et c'est là que vous avez rencontré Jacques Mesrine, celui qu'on appellera plus tard l'ennemi public numéro un, braqueur et roi de l'évasion. Jacques Mesrine, qui à l'âge de 10 ans, était déjà farouchement rebelle.
Ah oui. Mais enfin, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite, parce que c'était des cars, les fameux cars chaussons jaunes, qui nous emmenaient au collège de Juilly. Juilly qui se trouvait sur la route de Meaux. Et un curé m'avait dit, montez là, placez-vous ici, là. Il m'avait montré ma place. Et puis je me suis assis à côté d'un élève que je ne connaissais pas. Mais on était tous en uniforme. Juilly, il y avait le calot, il y avait l'insigne, il y avait la pèlerine.
D'où plus tard la fameuse chanson,
absolument,
les boutons
dorés. C'est comme ça que j'en ai eu l'idée.
On suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière. On tourne au coin du cimetière pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures on rentrera, suivant d'autres murs, d'autres grilles, à part ceux de l'école des filles, jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer
et
les
puis
orphelins.
Le quart des mains. Et puis tout d'un coup, il me regarde et puis il me dit, tu t'appelles comment, toi? Je lui dis, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Il me dit, tu te fous pas de ma gueule, non? C'est comme si moi, je m'appelais assis. Et je lui dis, non, 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 je t'assure, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Si tu veux, je te montrerai ma carte d'identité. Il me dit, moi, je m'appelle Jacques Mérine, mais il y a un S, mais on ne le prononce pas. Mais appelle-moi Jackie, ça ira plus vite. Et c'est comme ça que toute ma vie, je l'ai appelé Jackie.
Jackie. Alors, les parents de Jackie, Mérine, je ne vais pas prononcer le S, étaient très fortunés. Son papa travaillait pour la haute couture. Et vous dites que, en fait, Jacques Mérine demandait régulièrement à sa mère de l'argent pour acheter aux orphelins qui végétaient donc, dans cette
Parce
pension.
Parce qu'on n'était pas loin de la dernière guerre.
Ben oui.
Et le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France d'accueillir des orphelins de guerre.
Voilà.
Et croyez-moi, il y en avait pas mal.
Hélas. Alors, le petit Mérine demandait à ses parents
il
de l'argent.
Il était devenu le chef de bande.
Voilà, pour acheter aux orphelins des vêtements, des chaussures, des trousses, des cartables. Et même le dimanche, quand ses parents emmenaient Jacques Mérine déjeuner, oui, il exigeait qu'on invite, n'est-ce pas, tous les gosses
Absolument.
De son pensionnat qui n'avaient jamais de visite.
Oui, oui. Il les emmenait avec lui comme s'il était leur frère.
Mais c'était Robin des Bois.
Oui, puis alors il l'aimait tous parce qu'il était formidable. Alors il leur avait monté une équipe de football. Et puis quand il ne gagnait pas, il allait voir le gardien de but qui avait bien barré son but et puis il lui donnait un coup de tête. Alors les curés se posaient des questions. En plus, il y en a un qui s'appelait le père Cognet, je me souviens. Et ce père Cognet, il avait pris un peu Jackie, il l'avait pris un peu en grippe. Il se méfiait de lui parce qu'il avait remarqué qu'il était assez violent.
Effectivement, il marchait hors des clous parce que bon, vous étiez ensemble avec Jacques Mérine, enfant de cœur.
Oui,
donc on vous
servait à la messe.
Voilà, on vous réveillait à 5h du matin pour préparer le ciboire et les hosties. Mais en douce, il paraît que lui, il pillait les troncs. Et d'ailleurs, il reversait l'argent sa bande.
Oui, il avait une épingle à cheveux qu'il avait trafiquée. Et il arrivait à ouvrir les troncs et il prenait les pièces. Il y avait des fois des petits billets de 5 francs. Où il y avait, et il prenait tout ça, mais il ne le gardait pas pour lui. Il le donnait aux orphelins.
Alors, la première évasion, en fait, qu'il a réussi, il n'avait que 10 ans. Jacques Mérine a ligoté le gardien du pensionnat, il lui a pris ses clés, il a ouvert le portail, il a escaladé un car qui partait pour Paris en s'installant sur le toit accroché à des valises.
En se cachant dans les valises.
Voilà, il y a eu des barrages sur la route. Il paraît que le car a été fouillé 3 fois par des gendarmes,
ouais.
Mais ils n'ont jamais trouvé Jacques Mérine.
Jamais. Et il avait disparu pendant une semaine. Pendant une semaine, plus personne ne savait où il était. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il avait un parrain qui était dans la police, qui était commissaire de police.
Et... Le parrain de Jacques Mérine, commissaire de police,
oui, oui.
C'est joli.
Oui, et bien même lui, il n'arrivait pas à le retrouver.
Extraordinaire.
Oui.
Et vous rêviez de jouer de la clarinette, Jean-Jacques Debout. Votre père s'y opposait, puisqu'il voulait faire de vous un opticien. Alors, Jacques Mérine a volé une clarinette pour que vous puissiez commencer à faire de la musique.
Ah oui, il m'a dit, puisque t'as pas de clarinette, je vais t'en trouver une. Alors moi, je lui disais, t'es copain avec un marchand de musique, avec quelqu'un qui vend des instruments de musique, t'occupe pas. Et puis un jour, il y a une fanfare qui est venue jouer à la Coire d'Henré, à l'île de Ré. Et puis il y avait un kiosque, et puis il y avait une pause. Et puis pendant la pause, il a pris une clarinette, et puis il me l'a amené sur la plage.
Tranquillement.
Et puis comme il y avait un garçon qui était formidable, qui s'appelait Olivier Despax, qui jouait magnifiquement de la guitare, je l'accompagnais dans Nuages de Django Reinhardt. Et j'étais très fier.
D'accord, on peut dire qu'il a été votre premier impresario, votre premier manager, Jacques Mérine.
Il avait fait de moi Claude Luther. Quoi.
Voilà, carrément. Alors on continue de dérouler le fil des souvenirs, Jean-Jacques Debout. L'année du certificat d'études, ça a été pour vous l'année de la libération. Vous l'avez raté, donc
oui.
Vous êtes allé annoncer ça à votre père. Et alors, à partir de là, votre vie a commencé. Parce que votre grand-mère, qui habitait Paris derrière le Grand Rex, elle a commencé à vous emmener écouter Charles Trenet au Music Hall, elle vous emmenait dans les spectacles.
Elle était responsable de l'imprimerie de l'Humanité.
Oui.
Et elle avait des places pour aller à l'ABC, pour aller aussi au Rex, pour aller partout. Et alors, pour moi, elle aurait fait n'importe quoi. Et alors, comme j'aimais bien les opérettes, à l'époque... L'ABC venait de créer la fameuse route fleurie avec Georges Guettari et Bourvil et Annie Cordy. Alors, j'allais tous les jours, tous les après-midi, j'allais...
Tous les après-midi, vous y alliez ?
Tous les après-midi. Et j'étais devenu ami avec Bourvil.
Allez, on s'interrompt vraiment très, très peu de temps, une poignée de secondes. On retrouve tout de suite Jean-Jacques Debout.
Europe 1. Jusqu'à 16h, Isabelle Morizet retrace le parcours de Jean-Jacques Debout cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1.
Jean-Jacques Debout, alors résumons, à l'âge de 16 ans, vous jouiez donc de la clarinette dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, vous chantiez au Petit Conservatoire de Mireille, vous étiez coursier aux éditions Raoul Breton, vous dîniez régulièrement avec Charles Trenet et Joseph Kessel, et vous rêviez bien sûr d'écrire des chansons. Et c'est justement l'ami de Joseph Kessel, Jacques Prévert, qui vous a aiguillé vers la personne qui vous a appris à construire, à structurer une chanson.
Absolument.
À mettre en place toutes vos idées, quoi.
Oui. Qui s'appelait Christiane Verger. C'était l'amie d'enfance de Jacques Prévert. Et c'est elle qui m'a amené la première fois chez Prévert et qui m'a montré comment structurer une chanson. ça m'avait beaucoup touché de voir que Prévert avait pris la peine de me montrer comment ça se passait. Puis il m'avait donné 2-3 textes qu'il voulait que je mette en musique. Et puis ce jour-là, il était en train de faire des collages. Et alors il me tend une paire de ciseaux, il me dit « Tu peux pas me découper la pin-up qui est là ?» La pin-up, c'était Brigitte Bardot.
Alors, les grandes, j'ai même envie de dire les plus grandes stars, ont commencé à l'époque dans des cabarets. Vous alliez souvent aux Trois Baudets et vous avez assisté à une scène hallucinante un soir aux Trois Baudets. L'impresario le plus important de l'époque à Paris, allez, on va le nommer Jacques Canetti, s'est mis soudain à hurler avec mépris à un artiste qui allait entrer en scène. Et l'insulte, c'était « Ah, oh, mon pauvre Jacques, avec la gueule que tu as, jamais, tu m'entends, jamais tu ne réussiras. » Bien sûr, le pauvre Jacques, ben, c'était Brel.
Oui, c'était Brel. Mais non seulement il lui a dit « Jamais tu ne réussiras, mais jamais tu ne plairas aux femmes », il lui avait dit. Ce qui était encore pire.
Juste avant d'entrer en scène.
Oui, et là, il y avait Patachou qui, elle, se préparait parce qu'elle était la vedette du spectacle.
Oui.
Et elle n'avait pas apprécié, et Brel non plus. Et Brel l'a regardé comme ça et il lui a dit « Je m'en souviendrai ». Puis il est rentré en scène, parce qu'il lui a dit ça au moment où il allait rentrer en scène.
Choisir Canetti. Ce moment-là, c'est
oui.
d'une cruauté
oui.
inouïe.
Et puis alors, quand il est ressorti, évidemment, il était très, très, très en colère. Hein. Et il a dit à Canetti « Je ne remettrai plus jamais les pieds ici, c'est la dernière fois que vous m'avez vu ». Et Patachou lui dit « Écoute, Jacques, tu peux venir dans mon cabaret. Moi, je vais partir dans quelques jours faire une tournée avec Georges Brassens, parce que c'est elle qui avait découvert Brassens.
Oui, hein. oui, oui.
Et je pars en tournée pendant 2 mois avec Brassens. Et tu vas prendre ma place dans mon cabaret, rue du Mont-Cenis, là, près de la place
voilà,
du Terre. »
Voilà, donc du coup, elle embauche Jacques Brel. Et alors, Jean-Jacques Debout, pendant 2 ans et demi, donc, dans le cabaret de Patachou, vous allez partager votre loge
ah bah
avec
oui,
Brel.
Parce qu'il n'y avait qu'une seule loge.
Voilà. Alors Brel, il habitait à l'époque dans un bidonville, paraît-il.
À Montreuil,
mais oui. un bidonville, dites-vous.
Ah bah vraiment, vraiment.
Et, voilà. Et il était le meilleur camarade qui soit. Il l'est resté d'ailleurs en devenant une star. On oublie qu'il n'avait que 49 ans, Jacques
oh,
Brel,
oui,
quand
oui.
il est parti.
Mais c'est affreux. Alors qu'on avait l'impression qu'il avait fait une carrière qui avait duré, je ne sais pas, 50 ans. Et pas du tout. Mais c'était quelqu'un d'inattendu. Il pouvait rester 2-3 jours sans rentrer chez lui. Hein. Alors, quand il avait chanté, il allait se restaurer un petit peu. Et puis, il faisait le tour des boîtes un peu à la mode. Par exemple, il allait chez Moon. Moi, il m'avait emmené plusieurs fois chez Moon. Alors là, il offrait le champagne à toutes les filles qui étaient là. Et il n'allait pas là pour draguer, hein. Il allait pour parler, pour discuter.
Trouver un peu de chaleur humaine,
oui, alors il m'avait,
fuir la solitude.
Oui, il m'avait dit, tu comprends, quand on a chanté, c'est comme un ressort qui se tend comme ça dans ton estomac. Et moi, de pouvoir parler comme ça après, pendant des heures, le ressort se détend et ça me fait du bien.
Alors revenons à vous, Jean-Jacques Debout. En 59, à 19 ans, vous avez enregistré votre premier disque, Les Boutons Dorés, que vous avez d'ailleurs offert à Jacques Mérine en souvenir de votre enfance un peu prisonnière à tous les deux. Et Patachou vous a demandé d'assurer sa première partie, alors dans le plus grand music-hall parisien de l'époque, plus grand que l'Olympia, c'était l'Alhambra. Vous avez fait un triomphe à l'Alhambra, vous êtes retrouvé à la une des journaux, et parallèlement à ça, on peut presque dire que vous avez joué les impresarios pour un jeune garçon qui rêvait de chanter et à qui vous avez présenté Jean Vincent et Bruno Cocatrix. Parce que vous étiez vedette, alors que lui, simplement en rêvait, mais n'était pas sûr d'y parvenir. C'est Johnny.
C'est Johnny. Il était venu me chercher un soir à la sortie du cabaret de Patachou. Et puis il m'avait dit, je vous ai vu à l'Alhambra, je vous ai entendu à la radio, mais j'ai entendu, alors justement ça tombe bien, j'ai entendu sur Europe numéro 1 que vous alliez faire un musicorama dans lequel la vedette est Jean Vincent. C'est mon idole. Je ne rêve que de Jean Vincent et je voudrais tellement le voir de près. Vous ne voulez pas m'emmener à la répétition à l'Olympia avec lui? Alors je lui ai dit, mais si vous voulez, c'est jeudi après-midi. Et puis je l'ai fait rentrer avec moi. On est tombé sur Bruno Cocatrix. Je l'ai présenté à Bruno Cocatrix. Je lui ai dit, c'est un jeune garçon qui veut apercevoir Jean Vincent. Et il y avait là aussi Lucien Maurice, parce que c'était
qui était le directeur artistique de l'époque d'Europe 1.
Et puis, très gentiment, Lucien Maurice, à qui j'avais dit, il rêve, c'est un jeune garçon qui rêve de lui parler, parce que il voudrait faire du rock et tout. Il l'avait emmené par la main et il lui avait présenté Gene Vincent, qui était un peu étonné, mais en même temps très gentil et avec lui, et qui lui avait mis sa signature sur un rond de bière, comme ça.
J'imagine Johnny, totalement inconnu, partant avec un rond de bière qu'il met précieusement dans la poche de son blouson, parce que c'est Gene Vincent qui a fait un gentil gribouillis dessus.
C'est comme ça qu'il rencontre Bruno Cocatrix, qui lui avait dit: si vous avez envie de chanter, le jour où vous serez au point, venez me voir.
Et c'est vous, d'ailleurs, et après on va s'interrompre, c'est vous qui lui avez présenté la belle Sylvie, dont vous étiez amoureux à l'époque,
bah oui,
Jean-Jacques.
C'était un crève-cœur.
Un crève-cœur. Allez, on retrouve tout de suite Jean-Jacques Debout.
Comme un garçon, Sylvie Vartan, chanson écrite par Roger Dumas et Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h.
Alors, cher Jean-Jacques Debout, on est un matin de l'année 1962, donc vous avez 22 ans. La veille au soir, vous avez fait votre première grande émission de télé sur l'unique chaîne de l'ORTF, entourée de Juliette Gréco et de Serge Gainsbourg. Et ce matin-là, donc, vous êtes réveillé au téléphone par Bruno Cocatrix qui vous annonce... Bon alors, Jean-Jacques, tard dans la nuit, j'ai reçu un coup de fil de Marlène Dietrich qui vient d'arriver à Paris pour chanter à l'Olympia. Dans sa suite à l'hôtel Lancaster, elle a allumé la télé, elle vous a vu interpréter les boutons dorés. Il faut absolument qu'aujourd'hui à 18h, vous alliez au Lancaster. Marlène Dietrich vous attend. Alors, je rappelle que Marlène Dietrich était l'icône planétaire absolue, l'ange bleu, Gabin, même Kennedy d'ailleurs. En fait, avec Garbeau, elles avaient inventé le Star System. Donc à 18h, vous vous présentez devant la porte de la suite de Marlène Dietrich. Et vous n'avez pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle vous demande de venir.
Absolument. Et quand j'ai sonné, tout d'un coup, la porte s'est ouverte et j'ai vu devant moi l'ange bleu, habillé en jean, avec un blouson en jean, avec sa Légion d'honneur sur le blouson. Et je dois dire que j'étais pétrifié, je ne savais plus quoi lui dire. Je me disais, je rêve. Et elle me dit, vous ne savez pas pourquoi je vous ai fait demander de venir, c'est gentil que vous soyez là. Je lui dis non, Madame Dietrich. Alors, elle me dit, mais parce que quand je suis arrivé hier, je voulais voir les nouvelles qu'il y avait en France. Et tout d'un coup, je suis tombé sur vous et vous chantiez une chanson d'orphelin qui parlait de boutons dorés, de galons dorés. Et ça m'a rappelé Gabin. Vous aviez un air de Gabin quand Gabin était jeune. Et j'ai dit à Marty, voilà une chanson qui aurait été bien pour Gabin quand il était jeune. Et pourquoi je ne le prendrais pas dans ma première partie à l'Olympia? On va appeler Cocatrix. Et elle lui a dit, vous ne pouvez pas le joindre pour lui dire qu'il passe demain à 5h me voir à l'hôtel Lancaster.
Ce qui a été fait. Alors, je dois préciser que depuis des années, Gabin, qui était resté dans le cœur de Marlène Dietrich, eh bien, Gabin ne répondait plus à aucune de ses lettres et ne la prenait pas au téléphone. Et effectivement, Marlène Dietrich vous a engagé pour la première partie de son gigantesque show à l'Olympia, mais pendant la répétition de ce spectacle, un jour, elle vous confie une lettre qu'elle vous demande de remettre en main propre à Gabin, dont elle avait appris qu'il était en train de tourner un film au studio d'Épinay-sur-Seine. Parce qu'elle voulait lui dire qu'elle allait chanter pour lui, rien que pour lui, à l'Olympia. Et bien évidemment, elle espérait sa présence. Vous êtes allé sur le tournage, vous avez déjeuné avec Jean Gabin, Jean-Jacques Debout.
Oui, oui.
Et vous lui avez remis la si précieuse missive. Et là, vous nous racontez la scène, parce que c'était...
Eh bien, là, comme elle avait marqué à l'intention de M. Jean Gabin, il a reconnu son écriture et il a dit « Oh, bon Dieu de merde, c'est encore la Schleu qui me poursuit !» Et alors, il a fait une boulette de papier de la lettre qu'il a mis dans le cendrier Saint-Anneau en verre qui était devant son assiette. Et puis, il a sorti son briquet et il a mis le feu à la boulette de papier.
Mon Dieu.
Et le soir, au relais Plaza, où j'avais rendez-vous avec Marlène pour dîner et lui expliquer quand même l'objet de la lettre, j'ai dû mentir sur toute la ligne. Ben oui, je lui ai dit, il l'a mise à l'intérieur de son veston et bien entendu...
Sur son cœur.
Voilà. Oui, et bien entendu, Marlène, il ne l'a pas lu devant les comédiens qui l'accompagnaient.
Oh. Alors, le soir de la première pour ce grand show de Marlène Olympia, grand show dont vous assuriez la première partie, était assis dans la salle, incroyable, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Maurice Chevalier, Gary Cooper, Sammy Davis Jr., Spencer Tracy, Leonard Bernstein, le compositeur de West Side Story, entre autres, Coco Chanel, Jean Cocteau, enfin, bon, mais pas Gabin, pas Jean Gabin. Elle était anéantie, Marlène Dietrich.
Oui, elle était très triste. Et je me souviens qu'elle avait dit à Jean-Pierre Aumont, qui était son grand ami, parce que Jean-Pierre Aumont entretenait toujours des bons rapports avec Gabin, et elle avait pensé que Jean-Pierre Aumont arriverait à décider Gabin de venir. Et elle la regarde, je me souviens, elle était devant sa loge et elle a regardé Jean-Pierre Aumont. Elle lui a dit « Alors, il est venu. » Et un signe de la tête, il lui a fait comprendre que non, il n'était pas venu. Et alors elle m'a regardé et puis elle m'a dit « J'aurais tellement voulu qu'il voie ce que je suis devenu. »
Alors, vraiment, avant de faire une pause, il y a un épisode absolument fascinant et méconnu de la vie de Marlène Dietrich que j'aimerais que vous nous racontiez parce que vous en avez été le témoin pendant la préparation de Son à la plat. Marlène, effectivement, a dû faire un concert à Berlin où elle n'avait jamais remis les pieds. Tout le monde en Allemagne savait que pendant la guerre, elle s'était engagée comme infirmière dans l'armée française, qu'elle avait été décorée par De Gaulle. Donc ce concert à Berlin était dangereux pour elle. Sa tête avait même été mise à prix à Berlin. Mais oui. Marlène était une femme courageuse. Elle a pris avec vous l'avion pour Berlin. Oui. Et depuis le tarmac de l'aéroport, ça vous l'avez vécu oui. avec elle, jusqu'au théâtre au cœur de la ville, vous avez assisté à quelque chose de fou qui avait été organisé par le président des États-Unis, John Kennedy,
absolument.
Dont elle avait été la maîtresse.
Oui, elle avait été la maîtresse du père et du fils.
Non.
Oui.
Quel tempérament. Mais Kennedy avait fait quoi pour ce concert à Berlin?
Kennedy avait fait mettre tous les soldats qui étaient en Allemagne, américains, le long du parcours jusqu'au théâtre municipal de Berlin où elle chantait, ce qui était quand même beaucoup de monde, hein, parce qu'il avait peur d'un attentat contre elle, puisque le bruit courait qu'il pouvait y en avoir un. Et puis on a fini par arriver donc au théâtre. Et puis en arrivant au théâtre, il y avait un mot de John Kennedy.
Un télégramme.
Un télégramme qui lui disait « Commence ton tour de chant ». En chantant l'ange bleu, et ils oublieront tout, je t'embrasse très fort, j'espère que tu es fier de l'armée américaine, John Kennedy. Et alors, elle a dit, dites à Burt qu'il faut commencer par l'ange bleu, et elle a terminé aussi son tour de chant par l'ange bleu.
Oui, il paraît que Helmut Schmidt, qui était le maire de Berlin,
absolument.
Était assis seul
au
premier rang, et la salle était totalement vide.
Vide.
Au départ.
Vide. Et quand sa femme, à lui, est arrivée, et qu'elle est entrée dans le théâtre et qu'elle a été s'asseoir à côté d'Helmut Schmidt, alors là, le public a suivi. Et ça a été de la folie, c'était des pleurs. C'était... Et alors, ils avaient fait quelque chose d'assez joli, c'est qu'ils avaient mis des draps pendus dans les cintres avec des pétales de rose, avec des roses roses, parce que le rose, c'était sa couleur. Et puis, à la fin, ils ont lâché les draps avec toutes les pétales qui tombaient sur elle dans les éclairages. Et c'était très émouvant, c'était très beau. Et elle a explosé en sanglots.
L'Allemagne, nouveau,
oui.
lui disait son amour. On retrouve tout de suite Jean-Jacques Debout.
Europe 1. 15h43, vous écoutez Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Aujourd'hui, un plongeon dans les souvenirs de l'auteur-compositeur Jean-Jacques Debout, l'invité d'Isabelle Morizet.
Bon, Jean-Jacques Debout, il est temps qu'entre en scène la femme de votre vie, Chantal Goya, qui, lorsque vous l'avez rencontrée, portait encore le nom de sa famille aristocrate, les Deguerre. Alors, Chantal a vécu les 4 premières années de sa vie en Indochine, où son père dirigeait une plantation de caoutchouc. Marguerite Duras, amie d'enfance de la mère de Chantal, était sa marraine. Les Deguerre semblaient heureux en Indochine quand la guerre avec les Viet Cong a commencé et la famille de Chantal a dû fuir dans la précipitation totale sans rien emporter. Après une scène assez hallucinante dont Chantal, âgée de seulement 4 ans, j'ai presque envie de dire, a été l'héroïne malgré elle. Faut nous raconter. La petite Chantal, 4 ans, assise sur le perron de sa maison.
Oui.
Quand soudain...
Eh bien, Viet Cong est arrivé avec un sabre pour lui couper la tête. Et puis elle était complètement inconsciente et elle l'a regardée. Elle lui a dit « Tu peux me remettre le lacet de ma chaussure qui s'était défait ?» Il a posé sa dague sur le perron et il lui a refait le nœud de chaussure. Et il a repris son couteau, Il est reparti à l'entrée de la propriété de la plantation de caoutchouc, où ça s'est passé. Et il était en pleurs. Et quand les autres soldats l'ont vu arriver, et il s'était rendu compte qu'il n'avait pas du tout tué ni la famille, parce qu'il voulait tuer son père, sa mère et elle aussi.
Et, les Viet Cong l'ont tué.
Oui, ils l'ont exécuté. Parce qu'il était revenu bouleversé et il n'avait pas du tout fait ce que les autres attendaient.
Les Viet Cong, d'ailleurs, ont massacré tous les voisins la maison de Chantal, parents et enfants, n'est-ce pas ?
Oui.
Quand on démarre comme ça dans la vie, c'est-à-dire ensuite la fuite, changer de continent, repartir à l'autre bout de la planète, ça donne peut-être une résistance surprenante au malheur,
Ils ont dû prendre un bateau qui s'appelait le Pasteur, et ils sont arrivés par Marseille.
N'empêche que lorsque vous avez rencontré Chantal Goya, la toute première fois dans une soirée parisienne, elle n'était pas justement parisienne, puisque en réalité, elle vivait à Londres, où elle faisait des études pour devenir journaliste, et elle résidait chez la duchesse de Bedford, car elle était la petite amie du fils de la duchesse de Bedford. C'était pas franchement pratique, Jean-Jacques Debout ?
Non, mais enfin, moi, je d'abord, une heure avant, même pas, je savais pas que j'allais la rencontrer.
Oui, mais ça a été un coup de foudre.
Oui. Si Eddie Barclay ne m'avait pas amené dans cette soirée, je n'aurais jamais rencontré Chantal. C'était Barclay qui était chargé d'organiser la soirée. Alors, il m'avait demandé de chanter les fameux boutons dorés. Et alors, j'étais au piano, et puis tout en chantant, je voyais une jeune fille devant moi. Et plus je chantais, plus je tombais amoureux d'elle. Et à la fin de la chanson, je suis allé la voir. Et je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, je ne vous connais pas, comment vous appelez-vous ? Elle me dit, je m'appelle Chantal Deguerre. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression qu'un jour on se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre vers 35 ans, et puis un jour vous chanterez à l'Opéra de Paris. Alors, elle s'est mise à rigoler, et puis je l'ai perdue de vue.
Alors, vous l'avez perdue de vue, mais quelques mois plus tard, Jean-Jacques Debout, vous étiez en pleine répétition du fameux concours de la Rose d'Or à Antibes, dont vous étiez donné favori d'ailleurs, quand vous voyez débarquer Chantal, accompagnée de la maman de Michel Legrand, votre cœur ne fait qu'un bond, et puis vous dites soudain, vous mettez en tête de vous retirer du concours, alors que tous les journalistes de France étaient présents, pour enlever Chantal, partir en vacances avec elle à Saint-Tropez. Ouais. Donc vous avez frôlé le scandale. On vous a menacé d'un procès, d'ailleurs. Oui. C'est Chantal qui vous a ramené à la raison ?
Oui, Chantal m'a dit non, il faut que tu fasses ce concours. Je suis descendu avec Madame Legrand pour que tu gagnes. Je ne suis pas descendu pour que tu m'emmènes danser à Saint-Tropez. Et tu vas faire le concours. Et j'ai fait le concours.
Et vous l'avez remporté.
Et je l'ai gagné.
Alors, vous l'avez remporté, ce concours. À partir de ce jour, Chantal et vous ne vous êtes plus jamais quittés. Vous avez présenté Chantal Goya à Daniel Philippaki, qui a déclaré... Je vais la mettre en couverture de Mademoiselle H. Tendre, mais il faudrait qu'elle chante. Bon, ça n'a pas été un problème, puisque vous avez composé 17 albums, écrit 10 spectacles, et fait vendre 40 millions de disques donc à Chantal. Mais pour en finir avec, parce que c'est important tout de même, cette tentative d'assassinat qui a été le triste jeu de la vérité présenté le 13 décembre 1985 par Patrick Sabatier en direct à la télé après le concert de Chantal au Palais des Sports de Lyon. Vous écrivez dans un livre que vous avez fait paraître il y a quelques années chez Ixo, et qui a pour titre « Ma vie à dormir debout », vous écrivez « Patrick Sabatier avait été manipulé et tout ce qui s'est produit n'était absolument pas de son fait ». Mais vous savez très bien que Patrick Sabatier ne pouvait pas ignorer ce que la production avait décidé de faire, c'est-à-dire le choix des questions qui étaient plus qu'embarrassantes, certaines qui étaient haineuses.
Absolument.
Il ne pouvait pas avoir été manipulé.
Oui, il avait été manipulé, je sais même par qui, mais bon...
Vous croyez que Patrick Sabatier était hors du coup ?
Non, il n'était pas hors du coup, il avait répondu à...
Donc il n'était pas manipulé ?
Non,
il avait accepté.
De toute façon, ça avait été un lynchage organisé, Chantal dérangeait, elle dérangeait pas mal de monde du reste, et puis c'était un peu un règlement de compte, l'histoire. Elle est même assez compliquée... Mais c'est une histoire épouvantable. Et moi, on m'avait enfermé dans une loge avec une bouteille de scotch.
C'est incroyable.
Et une bouteille de Coca-Cola. Mmh. Et on m'avait enfermé à clé.
Non, mais c'est irréel.
Donc, s'ils avaient pris la précaution de faire ça avant que l'émission ne commence, vous pensez bien que c'est qu'ils avaient l'intention de faire quelque chose de pas bien.
Alors, vous avez fait une dépression, Jean-Jacques Debout. Le métier s'est détourné de vous pendant un certain temps. Mais celle qui restait forte comme un roc, c'est Chantal Goya,
absolument,
qui a toujours cru en l'avenir et qui a raison, puisque finalement, elle n'a jamais cessé de chanter, ni en France, ni à l'étranger.
Jamais.
Voilà.
Jamais.
Mais elle, en tout cas, a pris sur elle. Vous étiez lézardée de l'intérieur.
Fini.
Et elle a réussi à rester sereine.
Oui, elle me disait, t'en fais pas, moi je reprendrai ma place. De toute façon, je mérite pas un tel coup comme ça. Mais ça a été grave, on a dû vendre une maison qu'on aimait dans le midi. Les enfants qui étaient quand même encore en bas âge s'en sont rendus compte. Moi, je suis resté à peu près 5 ans sans me remettre devant mon piano. J'étais dégoûté de tout. Je ne voulais plus entendre parler de ce métier-là. J'étais meurtri, quoi. C'était terrible. La seule personne qui était au courant de la peine que je vivais, c'était Barbara. Et Barbara m'appelait et elle me disait « Tiens, j'ai une petite tournée dans le midi, tu veux pas faire la première partie ?» Elle le faisait exprès pour m'obliger à rechanter. Mmh. Et puis en même temps, ça m'a permis d'écrire quelques chansons avec elle, ce qui a été un vrai bonheur. Et je pense que c'est elle qui m'a remis le pied à l'étrier.
Et d'ailleurs, Barbara figure sur le double CD qui vient de sortir et qui a pour titre « Il, au pluriel, chante Jean-Jacques Debout ».
Oui.
On se retrouve tout de suite.
Europe 1. La conversation entre Isabelle Morizet et son invité arrive à son terme. Cet après-midi, c'est Jean-Jacques Debout qui se raconte. Donc au micro d'Europe 1, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Jean-Jacques Debout, depuis le début de cette conversation, on a convoqué beaucoup de personnages étonnants qui ont fait de votre vie un scénario de film. Mais il en est d'autres qui sont présents par les ondes qu'ils ont laissées dans les lieux que vous habitez. Je veux parler de Victor Hugo et de son grand amour, Juliette Drouet. Vous vivez toujours au cœur de Pigalle, dans l'appartement qu'occupait l'architecte Charles Garnier,
oui,
qui a donné son nom à l'opéra, face au petit jardin où Victor Hugo aimait prendre le thé avec Juliette Drouet. Vous vivez toujours là ?
Je suis toujours là et je vois tous les jours son petit hôtel particulier, enfin, où il avait installé Juliette Drouet. J'ai même retrouvé une photo, il n'y a pas longtemps, dans une vente aux enchères, où on le voit sur le perron avec son chapeau noir, et on devine la porte qui s'ouvre du petit hôtel, parce qu'il est surmonté par un escalier, et on devine le visage de Juliette Drouet.
Vous avez toujours eu le goût des demeures chargées d'histoire, hein, donc anciennes. Vous avez restauré 24 maisons et restauré 4 châteaux, ce qui est un gouffre financier.
Énorme.
Mais d'où vous vient ce goût des vieilles pierres ?
Je ne sais pas, c'est peut-être un manque quelque part. C'est peut-être...
Le manque de quoi ?
Parce que quand j'étais... Je suis né en 40. Et en 43, on vivait près de Saint-Aignan-sur-Cher dans une petite bourgade qui s'appelait Cégy. C'est là où se trouve le fameux parc de Beauval.
Oui.
Et j'étais chez ma grand-mère et j'étais très heureux. Et je me disais, ah, plus tard, j'aimerais bien avoir une maison qui ressemble à un presbytère, comme ça, comme à ma grand-mère. Et puis ça m'a toujours poursuivi qu'il fallait une maison avec des enfants pour pouvoir inviter des amis.
Oui.
Une maison aussi où on pouvait vieillir tranquillement sans trop se casser la tête. Et du reste, c'est ce que je fais en ce moment.
Alors, vous êtes heureux à Pigalle ?
Oui. Ma grand-mère habitait tout près, elle habitait la rue au-dessus, elle habitait près de la rue de Douai. Et je suis heureux parce que c'est comme un village.
Jean-Jacques Debout, si vous vous étiez aimé un petit peu plus, si vous aviez su être un petit peu plus narcissique et satisfait de vous-même, comme tous les artistes pour lesquels vous avez écrit et composé des tubes, vous auriez pu avoir une carrière de star. Mais on a le sentiment qu'avoir été le témoin privilégié de Charles Trenet, de Jacques Brel, d'Yves Montand, de Brassens, de Johnny, à qui vous avez présenté Sylvie, de Marlène, de Jean Gabin, de Piaf qui vous invitait chez elle pour vous donner des conseils.
Ah oui.
Tout ça fait votre bonheur.
Absolument. Mais moi, je ne m'aime pas personnellement, je ne suis pas mon type d'homme, hein, je ne l'ai jamais été. Et ce que j'aimais, moi, c'était mes amis. Et puis j'étais très, très flatté de connaître ces beaux esprits et de les avoir comme camarades. Parce que d'abord, ils m'apprenaient beaucoup de choses. Alors, des fois, je le disais à ma mère, je lui disais, tu vois, d'être parti de Saint-Mandé avant même d'essayer de repasser le certificat d'études. Ça m'a permis de rencontrer des gens dans Paris qui, eux, sont devenus mes professeurs.
Bien sûr.
Et avec qui j'ai appris beaucoup plus que si j'étais resté à Saint-Mandé.
Mais bien sûr. Alors, beaucoup de ces artistes se retrouvent sur le double CD qui vient de paraître en consignant les enregistrements en fait, qu'ils ont fait des chansons que vous aviez spécialement conçues pour eux. C'est, finalement, ce double CD, c'est comme un grand livre ouvert de la chanson française qui survolerait plus d'un demi-siècle de création. Mais quels sont les deux ou trois ou quatre titres auxquels vous tenez particulièrement dans cette liste ?
Oh, bah, y a une chanson qui me touche beaucoup quand je me suis rabiboché avec Sylvie après 2 ans où on ne se voyait plus. Ça a été le retour, ça a été comme un garçon.
Bien sûr.
Qui a fait le tour du monde, dire, grâce à elle.
Et puis, ah mais d'ailleurs, il y a, comme un garçon, il paraît que Marlène Dietrich vous a dit un jour « Ah, oh, j'aurais bien aimé
que tu me la donnes,
cette chanson.
Oui, » Oui, absolument. Et même un jour, j'ai rencontré Mylène Farmer et elle n'était pas dans ses meilleurs jours. Elle se posait des questions. Elle ne savait pas si elle allait repartir au Canada. Et elle avait un petit côté garçonne un peu. Et tout d'un coup, je lui dis « Pourquoi vous ne vous écrivez pas une chanson où vous dites que vous êtes un garçon ?» Parce que j'en ai écrit une pour Sylvie, ça a marché immédiatement.
C'est étonnant.
C'est quelque chose qui plaît aux femmes.
C'est incroyable, j'allais vous en parler.
Eh bien, elle l'a fait.
Sans contrefaçon, voilà. Je suis un garçon.
Oui, mais et elle s'en souvient très bien.
Bon, Jean-Jacques Debout, on pourrait parler des heures avec vous. Avoir assisté aux adieux de Miss Tinguette et avoir été complimenté enfant par Joséphine Baker n'empêche pas en 2020 d'avoir des projets. Ce sont lesquels ?
Je vais chanter sur une scène dans un théâtre 2 ou 3 jours, peut-être dans un an, puisque...
Vous prenez votre temps.
Je voulais le faire pour mes 80 ans qui sont le 9 mars.
Très bon anniversaire, avec un peu d'anticipation.
Mais je vous remercie beaucoup. Et puis, je prendrai mon temps pour le préparer, mais même si ce n'est pas exactement le 9 mars, tout ça n'a aucune importance.
Mais écoutez, le temps, en fait, que ce soit le passé, que ce soit l'avenir, voilà, le temps vous appartient. D'ailleurs, j'ai cité dans la toute dernière question de cette conversation Joséphine Baker, vous lui avez écrit sa dernière chanson ?
Oui, Jean-Claude Brialy m'avait téléphoné et m'avait dit « Je mets en scène la dernière revue, Les Adieux, à Bobino de Joséphine Baker. Et elle voudrait, et moi aussi, si tu pouvais nous écrire pour la revue un final. » Et c'est là où je lui ai écrit « Au revoir, mais pas adieu, puisque l'on s'en va. Au revoir, mais pas adieu, on se retrouvera. » Le théâtre va fermer, mes amis, c'est la dernière fois, car je savais que Bobino était vendu pour être démoli.
Alors moi, je vous dis au revoir, mais pas adieu, on se retrouvera.
Ah, avec plaisir.
Avec un immense plaisir, je vous embrasse, Jean-Jacques Debout. À très vite.
Et moi aussi, Isabelle.